retrouver Appel sur l'actualité.
Merci Jean-Baptiste Marot, 10h10 à Paris.
Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, bonjour à tous, ravi de vous retrouver, il est 10h10 à Paris, comme tous les jours à cette heure-ci, RFI vous donne la parole dans un instant évidemment, c'est votre rendez-vous privilégié avec les journalistes d'RFI, vous nous rejoignez pour nous poser toutes vos questions afin de mieux comprendre l'actualité, tous les sujets que nous traitons sur l'antenne d'RFI, si vous avez besoin d'un complément d'information, s'il vous manque des clés, des repères, eh bien vous n'hésitez pas, rejoignez-nous, 33 9 693 693 70, vous nous envoyez également vos questions via les réseaux sociaux, mais aussi par courrier électronique, appel au pluriel, actu@rfi.fr. Dans 30 minutes, comme tous les matins, un débat, nous parlerons tout à l'heure de cette affaire qui défraie la chronique à Bangui, en Centrafrique, l'affaire du don octroyé par l'Angola. En mars dernier, le président Dos Santos a fait un don de 10 millions de dollars pour soutenir notamment le fonctionnement du gouvernement centrafricain. Le problème, c'est qu'un quart de cette somme n'est jamais entré dans les caisses de l'État. Où sont donc passés les 2,5 millions de dollars. La présidente Catherine Samba-Panza assure qu'il n'y a pas eu de détournement de fonds. En tout cas, les députés exigent la vérité. Le Premier ministre doit d'ailleurs théoriquement aujourd'hui même s'expliquer devant les députés sur l'utilisation de cette somme. Alors que vous inspire cette affaire? Quel regard portez-vous sur la réaction des autorités centrafricaines depuis le début de cette polémique? 33 9 693 693 70. Cette polémique en tout cas ne vous laisse pas indifférent. Vous êtes nombreux au standard et nous avons reçu à cette heure-ci près de 500 messages postés sur la page Facebook de l'émission. J'en lirai évidemment quelques-uns tout à l'heure pour alimenter le débat, d'autant que les propos sont parfois très très durs à l'égard des autorités. Rappelons qu'il s'agit d'un détournement présumé pour l'instant. À suivre donc le débat du jour dans une demi-heure. Pour l'instant donc, vos questions. Ibrahim nous rejoint, il nous appelle de Soubré, c'est dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire. Bonjour Ibrahim.
Bonjour, Juan.
Vous avez des questions concernant l'armée allemande?
Oui.
On vous écoute.
Alors, j'ai écouté sur les antennes d'RFI que l'Allemagne avait des difficultés de transport de ses troupes vers l'Irak. Mmh. Alors, des difficultés dues à des pannes d'avions, voire même des manques d'avions, tout court. Alors, je voulais savoir qu'est-ce qui explique cette défaillance dans l'armée de l'air allemand alors qu'il s'agit de la première puissance économique européenne.
Ouais. Effectivement, c'est une bonne question. C'est vrai que quand on est simple citoyen, on est surpris que la première puissance économique européenne soit confrontée à de telles difficultés. Olivier Four, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le spécialiste des opérations des questions militaires sur RFI. C'est vrai qu'on a été surpris d'apprendre que pour transporter les armes promises aux Kurdes, hein, pour faire face aux djihadistes, eh bien l'avion qui était chargé de transporter ce matériel a décollé avec plusieurs jours de retard. Il a fallu attendre une pièce de rechange. Les soldats allemands qui étaient chargés d'aller former sur place les combattants kurdes, eux ont été forcés de faire une escale de 5 jours en Bulgarie puisque leur avion est tombé en panne. L'armée allemande n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre de la première puissance économique.
Oui, voilà, effectivement, si on met en vis-à-vis la puissance économique, le poids de l'Allemagne en Europe et sa capacité à peser dans les grandes décisions et à peser dans des coalitions militaires, effectivement, on peut se poser des questions. Alors, dans cette affaire, il faut faire très attention parce qu'il y a plusieurs notions à prendre en compte. Tout d'abord, le budget. Est-ce que l'Allemagne a vraiment un budget de la défense beaucoup plus faible que ses voisins? Vous savez qu'on dit qu'en Allemagne, les gens sont plutôt pacifistes et restent plutôt en retrait des affaires militaires. Alors, j'ai sorti les chiffres. Pour 2014, le budget allemand, il est de 32,8 milliards contre 39 milliards pour la France, si on compte les pensions, comme le font les Allemands. Hors pension, c'est 31,4 milliards pour la France. Donc déjà, la France, effectivement, dépense plus, mais on verra pourquoi tout à l'heure. Parce qu'en France, il y a aussi la dissuasion nucléaire, il y a des postes de dépenses qui sont pas les mêmes qu'en Allemagne. Et puis, ce qu'il faut regarder, effectivement, et c'est là toute la question d'Ibrahim, c'est ce que peut représenter cette dépense au regard de la richesse nationale. Pour l'Allemagne, c'est environ 1,3% du produit intérieur brut. les dépenses de défense. Pour la France, c'est 1,8, donc on voit un effort un peu plus conséquent. Pour le Royaume-Uni, c'est à peu près 2,4. Et pour la Pologne, c'est proche de 2. Et 2%, c'est à peu près ce que recommande l'OTAN pour que les pays de l'Alliance soient relativement bien équipés. Vous savez que Barack Obama a toujours dit « Je veux des alliés dans l'Alliance Atlantique ». Et l'Allemagne
est membre de l'OTAN.
Mais je veux des alliés bien équipés.
C'est-à-dire que l'Allemagne, si je comprends bien, juste pour résumer, au lieu de dépenser 2% de son PIB, comme le demande l'OTAN, elle n'en dépense qu'1,3%.
Voilà, elle est bien en dessous, et encore, elle réduit ses dépenses. 500 millions d'euros de moins entre 2013 et 2014. Une réforme qui a commencé il y a quelques années, qui prévoit la suppression de mémoire de plusieurs dizaines de milliers de postes de militaires. Alors après, la question d'Ibrahim, elle est très précise, elle concerne ce qu'on appelle le taux de disponibilité des appareils. C'est-à-dire, pourquoi est-ce qu'un avion démarre au premier tour de clé, ou pourquoi est-ce qu'il doit faire des escales, ou pourquoi est-ce qu'il tombe en panne. Alors là aussi, on a regardé les chiffres, il y a effectivement les avions de transport. Les avions de transport dont on parle, ce sont les Transal. Les Transal, la France, on a à peu près les mêmes versions, enfin à peu près le même appareil, mais les Transal français sont allés beaucoup plus en opération extérieure, en Afrique, ils sont usés jusqu'à la corde, alors qu'on disait jusqu'à présent que les Transal allemands étaient un petit peu en meilleur état. On voit finalement que c'est
que
pas
ce
tout à fait
le cas.
Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, en France, je compare à la France pour comparer ce qui est à peu près comparable, deux nations. En France, l'armée de l'air fait tout pour avoir une réactivité maximale. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ces dernières années, le président de la République peut appeler l'armée à partir très vite sur un théâtre d'opération. Souvenez-vous, fin 2013, l'armée de l'air était prête à aller bombarder la Syrie à la demande du pouvoir politique, et ça s'était préparé en quelques jours seulement. En Allemagne, c'est différent parce qu'en fait, vous avez un processus politique qui est plus long, qui fait appel aux parlementaires, etc. Donc, avant d'entrer sur un théâtre d'opération extérieur, les Allemands mettent plus de temps. Donc, finalement, ça se répercute sur la manière de travailler de l'armée de l'air allemande, notamment, qui n'est pas forcément prête à partir au claquement de doigts. Après,
les chiffres font peur quand même. Enfin, sur les 200 avions de combat, il y en a que 80 qui sont en état de voler.
Ça, c'est quelque chose qu'il faut relativiser. Ce taux de disponibilité, je regardais ça à peu près entre 45% et c'est beaucoup moins pour les hélicoptères. En réalité, c'est à peu près la même chose en France.
Oui, c'est pas plus rassurant.
Mais pourquoi? Mais ça s'explique parce qu'en fait, quand vous avez 100 avions de combat, vous en avez à peu près la moitié qui est en permanence, en maintenance ou des choses comme ça. C'est des systèmes qui sont complexes. Il y a aussi un aspect qu'il faut bien comprendre, c'est que pourquoi ces chiffres sortent actuellement dans la presse, c'est que la nouvelle ministre de la Défense en Allemagne veut mener une réforme en profondeur de la Bundeswehr, et finalement, je pense que...
De l'armée allemande,
et il y a un certain nombre d'informations qui remontent pour aussi appuyer la nécessité de mener des réformes en profondeur. Une fois de plus, le taux de disponibilité, il n'est pas forcément meilleur en France. La seule différence, c'est que en France, il est excellent en opération extérieure, c'est-à-dire que le matériel vole, les hélicoptères, les avions volent, c'est un effort important. Par contre, ça vient vampiriser la ressource sur le territoire national. C'est-à-dire que quand vous avez des hélicoptères qui sont déployés à l'étranger, peut-être que les pilotes volent beaucoup moins sur le territoire national.
Merci beaucoup Olivier Four, merci d'être venu répondre à Ibrahim, qui nous appelait de Soubré en Côte d'Ivoire, où il est 8h18. 33 9 693 693 70. Avec nous, Guillaume Thibault du Service Afrique. Bonjour Guillaume.
Bonjour à tous.
On vous a demandé de venir ce matin. On a beaucoup de questions sur la situation dans le nord du Mali. La région est de nouveau le théâtre d'attaques perpétrées par les djihadistes. Je rappelle que vous êtes journaliste au Service Afrique des RFI et que vous suivez évidemment la situation dans ce pays. La première question nous vient de Dakar. Soubi, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour la Radio Mondiale, bonjour à toute l'équipe d'Affaires sur l'actualité.
On vous écoute, vos questions.
Compte tenu de recrudescence des attaques perpétrées ces dernières semaines par les groupes fondamentalistes dans la bande sahélo-saharienne, plus précisément au Mali, comment expliquer la multiplication de ces attaques orchestrées par les groupes fondamentalistes contre l'AMINUSMA?
Alors, comment
Quelles sont les mesures prévues par l'AMINUSMA pour faire face à ces attaques?
Alors, Guillaume, faut quand même rappeler que ces attaques, effectivement, sont devenues monnaie courante contre les casques bleus. Ce sont des attaques qui remontent au mois d'août, hein, donc à cet été. Et on peut le dire, la MINUSMA, donc les casques bleus, aujourd'hui, sont les seuls sur le terrain.
Et ce constat n'est pas nouveau. Il y a deux mois, le chef de la force de l'ONU, le général Cazoura, le reconnaissait déjà. C'était sur notre antenne. Nos partenaires ne sont plus là. La force française a diminué ses effectifs. C'est donc la MINUSMA qui se trouve au nord Mali. Nous pouvons donc en déduire que nous devenons une cible privilégiée. Voilà ce qu'il déclarait. Les partenaires, comme les appellent les Nations Unies, sont donc beaucoup moins actifs dans la région. L'armée malienne déjà, la force locale, elle est malheureusement, elle est présente aujourd'hui à Gao, à Tombouctou, plus au nord à Tessalit, mais elle ne bouge pour des raisons de sécurité et des raisons techniques pratiquement pas des camps. À Kidal, les FAMA, les forces armées du Mali, elles ont quitté la ville depuis le mois de mai, après une défaite contre les groupes armés, le MNLA et le HCUA. L'armée française, François Hollande, estime que cette guerre au Mali est une réussite. Il a mis fin à l'opération Serval il y a 3 mois. La base de Bamako est fermée. Il reste désormais 1000 soldats français à Gao. Et c'est à peu près tout. Tombouctou, Kidal, Tessalit, les détachements dits de liaison comptent entre 30 et 100 hommes. La MINUSMA a dû prendre la place, combler les vides, renforcer ses positions, notamment à Guélock, à Kidal. Et dans le même temps, il a été demandé à cette force de créer dans le Nord Mali 10 nouveaux camps, ce qu'on appelle des camps secondaires. Certains sont à monter de A à Z. C'est un programme qui va durer jusqu'au printemps. Toutes ces opérations, toutes ces missions entraînent des déplacements. Les risques sont donc multipliés. Les 9 militaires du Niger qui ont été tués, par exemple, la semaine dernière, ils étaient chargés du ravitaillement en essence et en vivres des bases de la MINUSMA au niveau de Gao.
Et ces casques bleus ne sont pas forcément bien équipés.
Tout à fait. C'est le problème actuellement de la MINUSMA. Les bataillons, ils sont tchadiens, ils sont burkinabés, ils sont bangladais, ils sont encore chinois. Ils n'ont pas du tout les mêmes équipements. Certains n'ont, par exemple, pas de blindés. La MINUSMA, de façon générale, n'a pas de moyens d'écouter comme l'avait l'armée française. Au contraire, engins explosifs, mines, attaques kamikazes, tirs de roquettes, d'obus. Les djihadistes ont multiplié les actes et multiplié la façon, les façons, les techniques pour attaquer la MINUSMA. Ça, c'est une force actuellement.
Ah, Sobi nous demandait quelles mesures comptait prendre la MINUSMA à l'avenir pour faire face justement à ces attaques.
Concrètement, c'est compliqué, ça prend du temps, ça coûte cher. Les Nations Unies ont promis par exemple d'acheter des drones de surveillance. On ne sait pas quand est-ce qu'ils seront livrés. Il y a 15 jours, la MINUSMA a reçu de nouveaux véhicules blindés pour détecter les mines. Il faut maintenant les convoyer vers le Nord Mali, il faut les utiliser. Un exemple à Kidal, la semaine passée, l'immense camp de la MINUSMA a été attaqué. Il est situé juste au sud de Kidal. Ce camp, 8 obus tirés à la nuit tombante. La force onusienne a mis beaucoup de temps, a mis quasiment toute la nuit pour faire le point, pour définir la zone de départ des tirs, pour définir les sites touchés, pour avoir un bilan humain. Le lendemain, le personnel civil, il n'a pas été autorisé à rentrer dans le camp et c'est à peu près tout. Joint sur place, un soldat originaire du Sénégal nous confiait « Nous gardons le moral car nous avons évité le pire ». Mais nous restons dans le camp depuis des semaines, les cadres de la MINUSMA. Ils critiquent, sans le dire officiellement, justement, le départ de l'armée française depuis cet été. À Paris, l'état-major, il est très clair. Et voilà ce que nous disait un cadre de cet état-major la semaine dernière. Il y a 40 soldats français à Kidal. Les casques bleus sont 1200. Faites le rapport. Pour sécuriser cette zone, il n'y a pas le choix. Il faut multiplier les patrouilles, quadriller le terrain. C'est ce que nous avons fait. Et de notre point de vue, c'est à la mission de la force de l'ONU de le faire aujourd'hui.
En tout cas, face à la dégradation du climat sécuritaire, Bamako, en l'occurrence le ministre malien des Affaires étrangères, a demandé la semaine dernière au Conseil de sécurité la mise en place d'une force d'intervention rapide. On verra évidemment si le ministre a été entendu. Saté Djéné nous rejoint. Bonjour.
Bonjour, Rouane.
Vous êtes à Bamako, au Mali. On vous écoute avec Guillaume Thibault.
Merci à Bamako, Rouane. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de la radio RFI. Rouane. Allô?
Oui, on vous écoute.
Et on a constaté depuis le remplacement de l'opération Serval par la MINUSMA, comment dirais-je, Barkhane. Alors, la force française, la présence de la force française au Nord Mali est devenue très faible. Alors, quels sont les moyens et les objectifs que dispose cette opération?
L'opération Barkhane. On rappelle que Serval a basculé sur une opération beaucoup plus large de lutte contre le terrorisme. Elle concerne tout le Sahel. C'est ce qu'on appelle donc l'opération Barkhane. Serval donc se concentrait sur le Mali. Barkhane, au contraire, c'est une mission vraiment sur un territoire grand comme quasiment 10 fois la France.
Concrètement, ce qui intéresse en ce moment les militaires français, c'est la zone Nord Mali, Nord-Niger, Sud-Libye. L'État français, d'ailleurs, défend depuis longtemps une sorte de respect des frontières. On a entendu 1000 fois pendant l'opération Serval respecter l'intégrité du Mali. On se rend compte que Barkhane, pour la première fois, n'a rien à voir. L'armée française se donne un certain droit à passer d'un pays à l'autre. Sur le terrain, l'armée a donc changé de stratégie et tiré sans doute des leçons de Serval, terminé notamment les grands convois visibles à des dizaines de kilomètres. Ce sont désormais les forces spéciales qui ont la main, qui sont en première ligne. L'idée, c'est de débusquer les groupes terroristes, les surprendre, dit l'état-major l'état-major français. Il faut couper les axes de déplacement, justement, entre le nord Mali et le sud de la Libye. Un exemple, sur les sources de ravitaillement des djihadistes en armes, les mines belges utilisées récemment dans les attaques contre la MINUSMA, elles proviennent d'un dépôt qui est situé près de Sebha, dans le sud de la Libye, dans la ville de Brak. Autre exemple, sur les arrestations récentes de djihadistes, les militaires français parlent de neutralisation. Récemment, a été arrêté le porte-parole de Mokhtar Belmokhtar. Il s'appelle Abou Hassim El-Mouadjir. Il a été stoppé fin septembre dans la passe de Salvador, qui est située tout au nord Niger. Cette opération, elle a été menée dans le plus grand secret par les forces spéciales françaises. Serval était une mission d'envergure, avec de gros moyens, avec beaucoup de communication, autant militaire que politique. Souvenez-vous de la déclaration de François Hollande à Bamako, 3 semaines d'intervention Serval, c'est sans doute le plus beau jour de ma vie politique. On n'a plus de déclaration de ce type. Barkhane se fait dans le secret, se fait dans le silence. Ce qu'on entend souvent à l'état-major à Paris, quand on leur pose des questions sur cette opération, c'est « nous ne commentons pas cette information ».
Mais malgré tout, est-ce que vous avez des informations, Guillaume, sur le fait de savoir si l'armée française compte renforcer ses effectifs au nord, en Mali, quand on voit l'évolution de la situation?
Alors c'est pour le moment exclu de remettre des contingents importants comme on a pu l'avoir en 2013. Paris estime, on l'a dit, que c'est à la MINUSMA de faire ce travail. L'armée française, elle va participer à des missions collectives, elle va apporter un appui temporaire. La semaine passée, après l'attaque du camp, ce sont des hélicoptères français qui sont venus à Kidal et qui depuis, plusieurs fois par jour, survolent la région.
Guillaume, on repasse au standard. Patient nous appelle de Lubumbashi en République démocratique du Congo. Bonjour Patient.
Bonjour Juan, ça va?
Ça va, merci beaucoup. On vous écoute.
Alors, merci Monsieur Juan. Nous avons suivi sur RFI il y a 2 semaines que les djihadistes ont repris le nord Mali.
Oui.
C'est ainsi que s'en posait une question. L'armée malienne en pleine reconstruction est-elle capable d'affronter les djihadistes dans le nord du pays?
Bonne question, d'autant que vous êtes nombreux. On a consacré, Guillaume, hier, une émission justement sur la situation dans le nord du Mali, et les auditeurs disaient, mais il faut donner les moyens à notre armée pour reconquérir le nord. En tout cas, c'est ce qu'affirme le général Mahaman Maïga, le chef d'état-major des armées. Il dit, notre armée est capable.
Et il a dit clairement, nous sommes en mesure de répondre par les armes si les négociations d'Alger échouent. Alors, on va tout de suite faire la différence entre les groupes du nord Mali, le MNLA, le HCUA, et les groupes djihadistes, ACMI, le Moujaou. On peut néanmoins noter que ces mouvements, quand ils se battent, ils ont les mêmes moyens d'action, ils connaissent le terrain, ils sont rapides, ce sont des petits convois, etc. etc. Aujourd'hui, il faut dire clairement, l'armée malienne, elle est bien moins compétente que tous ces mouvements. Souvenez-vous, fin mai, la débandade de l'armée malienne à Kidal, suite à l'avenue de Moussamara. Les FAMA qui ont fui la ville à ce moment-là, on peut rentrer dans le détail, ils venaient d'être formés à Koulikoro, c'est le fameux programme de formation mis en place avec Serval. Ce sont des militaires de l'Union Européenne qui participent à ce programme. C'est une formation accélérée, elle dure à peu près 3 mois. En gros, c'est pour maîtriser les rudiments du soldat. Les militaires maliens qui sont en ce moment tout au nord, dans le fameux camp d'Amachajdou, ont été lancés les opérations contre les djihadistes. Ce sont les premiers à être sortis de cette formation. Aujourd'hui, ils n'ont toujours pas été relevés. Leur mission se cantonne à garder le camp. C'est un exemple parmi d'autres pour montrer à quel point l'armée malienne mettra du temps à reprendre du pouvoir, à redevenir ce qu'elle a été dans le passé.
Et nous reste 2 minutes à peine. Je me fais donc le porte-parole pour aller un peu plus vite de Sinali à Bamako qui nous dit, mais pourquoi le MNLA ne réagit-il pas face à la flambée des attaques, la multiplication des attaques dans le Nord? Le MNLA se trouve-t-il donc en position de faiblesse par rapport aux djihadistes?
C'est difficile à dire. Comme l'armée française, le MNLA se travaille dans la confidentialité. On sait qu'il y a des liens entre le MNLA et l'armée française. Les liens entre le MNLA et la MINUSMA sont beaucoup plus complexe. Pourquoi? Parce que la MINUSMA est partie prenante dans les négociations d'Alger. Demain, la MINUSMA, la version politique de la MINUSMA, va pas dire à tel ou tel groupe armé, venez nous aider à attaquer tel groupe djihadiste. C'est pas possible pour le programme. C'est essentiel que des accords soient trouvés parce que ça permettra peut-être un jour le retour de l'armée malienne et surtout le désarmement de ces groupes. Concrètement, on saura qui est djihadiste et qui peut devenir un groupe politique ou pas.
Merci Guillaume. Merci beaucoup d'être venu. On avait d'autres questions de prévues, mais enfin, on est un peu gourmand.
Ah, il y avait la dernière question sur la présence d'Iyad Agrali dans le Mali.
Voilà. Bah, gardez-la pour vous, la réponse, et on vous demandera de venir, j'espère, dans les prochains jours.
Sans problème.
Bah, non, parce qu'il faut prendre le temps, quand même, de donner des explications. Merci, Guillaume Thibault. Merci à vous de votre fidélité. D'autres questions, évidemment, à la rédaction, demain. D'ici là, vous nous appelez. Le standard reste ouvert. Toutes vos questions nous intéressent. Donc vraiment, n'hésitez pas, hein. 33 9 693 693 70. Et si vous nous envoyez vos questions sur les réseaux sociaux, n'oubliez surtout pas de nous indiquer un numéro de téléphone afin que nous puissions vous rappeler, car le principe de cette émission, c'est de vous avoir au bout du fil et de vous avoir évidemment sur l'antenne des RFI. Dans un instant, le journal, et dans 10 minutes, notre débat sur l'affaire du don octroyé par l'Angola à la Centrafrique.
Appel sur l'actualité vous a été proposé par Orange Monnaie.